Let's do this! Adichats à vous toutes et tous. On espère que vous allez bien et on est très heureux comme d'habitude de vous retrouver pour ce nouveau Rock Farmer Show, le 7e et qui s'appelle tout simplement Rock Farmer. Pourquoi ? Car on va vous parler de tout ce qui a été juste avant et après la conception de cet album, notre 5e et qui marquera un tournant dans l'histoire du groupe mais aussi de la ferme. Le documentaire de Jens Ulrich, lui aussi appelé Rock Farmer, allait sortir dans ces années-là avec un peu tout ce qu'on va vous raconter dans cette émission et qu'on a un tout petit peu commencé à vous parler dans la précédente. Les oies vont bien, elles sont désormais protégées et toujours en forme. Ça, ça n'a jamais changé. Le blé est beau, le maïs est sorti. Et on bosse à fond aux maraîchers car l'hiver va être long. Très long en ce qui concerne la musique en 2021. Le concert des arènes cet été est reporté à l'année prochaine car en gros, on allait avoir une jauge à 1000, autour de 1000, avec des conditions qu'on pourrait qualifier de tue l'amour, du style analyse bionique, test ADN et copie du passeport et surtout avoir le bac avec mention. Oui, parce que c'est le gouvernement de Micron, donc c'est Bac Plus, les gars. Ouais non, on déconne, évidemment, enfin, à peine. Bref, ça allait être relou et pas du tout festif, comme on aime. On ne voulait surtout pas que ça finisse en concert d'entre-soi. Le but, c'est que beaucoup de gens viennent de partout. Donc rendez-vous l'année prochaine et il y aura de la bière, il y aura des Écossais, donc de la bière, des Espagnols, des Anglais au concert, des Bretons, bah donc de la bière, des Basques, des Parisiens qui descendront en province. Bref, ça va être la teuf. On préfère faire cela, ça nous correspond plus que faire pour faire. Car pour nous, l'été, c'est ça.
A più mazzantini, anche che la tua, se nelle scarte spa, se rasi un finan. A più mazzantini, che non cavo scartato, tutti si va smontà, e la dell'esca no. Ma chi l'ha mai pintato, ben mi hai della pista, entrendene te già lo so a cote pes, la vet che ci le coppe che è un gran sa.
La caserienne, l'hymne de la course landaise, le sport gascon de nos villages. On salue d'ailleurs tous les coursiers, écarteurs, sauteurs, ganadaires, durement touchés aussi par la Covid. On les entend peu car c'est un monde où on ne les ramène pas, mais on sait qu'ils souffrent et on les salue à toutes et à tous. Tenez bon. Et las bacas, ta bien. La caserienne donc de Cazères-sur-Adour, écrite au début du siècle en l'honneur de la course landaise. Les paroles en gascon ont été écrites et rajoutées par notre grand ami Jean Barrère, dit Lou Yann Deburos, un très grand ami. Jean chante en gascon sur cette version, hein, c'est pas de l'occitan. Oh. Cet enregistrement de l'Union musicale de Saint-Justin, oui, car chaque harmonie ou bandas a sa propre version de la caserienne dans chaque village. Jean est le Gascon. S'il y avait un parmi nous pour nous représenter, ce serait lui. Il a d'ailleurs fait la une du Géo Magazine quand ils ont consacré un numéro entier à notre culture. Jean est un poète, un conteur, un coquin, oui, parce que sinon, bah ici, c'est pas crédible, un grand amoureux de la nature, un vrai. On partage beaucoup de choses avec lui, et surtout, une même vision de comment on vit notre culture, c'est-à-dire sans jamais aucune clôture. Cette musique que vous entendez au début de nos concerts et qu'on amène un petit peu partout dans le monde entier, eh bien des fois, juste avant de monter sur scène à deux devant des milliers de personnes qu'on ne connaît pas, ça nous permet de nous concentrer, de nous ancrer avant de partir au combat. C'est assez délicieux de voir la tête du public au fin fond du Montana, du Tennessee, de l'Iowa, non, nous n'allons pas faire la blague sur Slipknot là, ou encore du Pérou ou de l'Inde, et qui se demandent « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Du coup, on leur explique et on leur dit que c'est le sport des paysans gascons, un petit peu de cette culture qu'on amène un petit peu partout dans tous les coins du monde. C'est là aussi on s'est aperçu qu'il y avait une forme de solidarité universelle entre tous les paysans de la planète. C'est ce qui nous intéresse le plus dans ces échanges sur la diversité culturelle, le partage. Jean, qu'espéri que nous escouta comme sustem et cadar s'abaisse tout de suite l'ultra-crépidarianisme. C'est un message entre nous, avec Jean, car Jean est la personne qui nous a appris ce que voulait dire le mot ultra-crépidarianisme. Et oui, car Jean, entre plein de repas avec plein de potes au milieu de Gascon, a des discussions philosophiques comme cela. Donc l'ultra-crépidarianisme, c'est le fait de parler de façon certaine de sujets qu'on ne connaît absolument pas du tout. Bref, en gros, c'est le 20e siècle, c'est exactement la société dans laquelle on vit. Si vous venez dans le coin, allez visiter la Granaderia de Buros, à côté de Gabaret dans les Landes, tenue par Jean et Marie-Sylvie, qui est un musée, une palombière, un énorme érial. Bref, il y a tout, c'est une ferme comme autrefois, avec des moutons landais, des vaches landaises, des palombes, des porcs gascons, qui sont en général donnés par des rugbymen en cadeau. Enfin bref, c'est toujours des histoires hyper abracadabrantes. Oui, car il est aussi paloumaïre le type. C'est-à-dire qu'il appelle les palombes en les imitant et en les chantant. Il est champion du monde des paloumaïres. Bon, ils sont pas nombreux, ils sont une dizaine et le concours se passe juste entre les Landes et le Gers. Mais il est champion du monde. Il vous recevra en échasse. Oui, car il parle souvent du haut de ses échasses. Car comme il dit, ça fait tout de suite plus impression. Ah oui, et il est maire aussi de son petit village de 170 habitants, Escalance. Pendant ce temps-là, dans le 20e siècle, côté musicien et technicien et artiste, Micron, Jeannot et Rosie, on fait fort, on fait très fort, comme vous avez dû en entendre parler. Ils ont enfin reconduit l'année blanche des intermittents de 4 mois. Oui, vous avez bien entendu, 1 an égale 4 mois. Donc 1 égale 4. Sachez que c'est possible en mathématiques, dit algèbre linéaire. C'est d'ailleurs un exercice qu'on a fait en maths sup, où on vous met au tableau 0 plus 1 égale 0 dans tel espace vectoriel, donc 1 plus 1 égale point d'interrogation. C'est assez déroutant et marrant à faire, mais c'est dans un espace vectoriel particulier. Il est évident que Micron, Jeannot et Rosie, vivent dans un espace vectoriel propre dont eux seuls ont les termes, apparemment depuis quelques années. C'est l'espace vectoriel de l'ENA et de toutes les grandes écoles. Un monde particulier. Du coup, dans cet espace-là, 1 égale 4. Ça veut dire donc que Micron n'a pas 40 ans, mais il a 160 ans. Ah, mais c'est pour ça. C'est pour ça. On se disait aussi que quelqu'un de 40 ans pouvait pas penser le monde comme un vieux, comme cela surtout au 21e siècle. Donc pour les intermittents, les gars, vous avez compris, 1 an égale 4 mois, ok ? Fuck you ! Niveau jingle, on a décidé de passer outre le CSA et donc de ne pas répéter les radios qui nous diffusent dedans, mais d'y aller simple et franco. Fuck you ! 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 De notre côté, si on arrive à trouver une radio qui s'appelle Fuck You, pour le CSA, ça va marcher. Pendant 2 ans, on allait travailler en alternance un peu à fond, tout le temps, entre tournées dans le monde et des travaux ici à la ferme. La première grosse tournée où on alternait les deux activités fut la tournée américaine avec Suicidal Tendencies, Terror, Trash Talk et nous. Tournée d'un mois sur la côte ouest et aussi le Midwest, niveau affiche, ça faisait. Donc niveau musique, ça fait Trash Talk, c'est ça. Terror, c'est ça. Et Esti, c'est ça. Donc en gros, on était les jazzeux de la tournée. Thank you. C'était Duke Ellington, John Coltrane et Coleman Hawkins dans cet album magique réunissant les trois grandes gloires du jazz. Si vous n'êtes pas trop dans le jazz, on vous conseille de démarrer par cet album-là, qui est très accessible et assez simple d'écoute, car seuls les plus grands qui en savent beaucoup, comme toujours et dans toutes les disciplines, peuvent être aussi pédagogiques et aussi simples, en tout cas en apparence. On a beaucoup d'anecdotes sur cette tournée qui se déroula dans un grand froid, notamment dans l'Idaho, où après le concert de Seattle et dans la traversée pour rejoindre Boulder dans le Colorado, deux jours après, ce fut du sport, avec une tempête de blizzard et on pouvait à peine rouler. Évidemment, il y a eu la frontière canadienne et le concert de Vancouver qu'on n'a jamais fait, comme expliqué dans la première émission de radio, les fameuses bagarres générales à Tulsa dans l'Oklahoma à coups de chaise, etc. Bah parce que sinon c'est pas marrant, et la bagarre générale à San Antonio dans la salle au Texas, entre Skinhead et Latino, et les sécu, et avec Mike Muir de Sous-Saïol qui nous texte pour nous dire « Cassez-vous les gars parce que ça va chauffer ». Bon bref, ça c'est la routine des tournées de Sous-Saïol Tenensis aux États-Unis il y a longtemps. On va se concentrer sur Trash Talk et nos relations avec eux. Trash Talk, c'est un super groupe de scène qui fait une musique assez intéressante. On partageait donc les loges avec eux. Et disons qu'on a eu des relations plutôt spatiales pendant toute la tournée. Pas de problème entre nous, mais plutôt, comment dire, vous savez, quand vous parlez à quelqu'un, mais vous vous comprenez pas. Ben voilà, c'est pareil. Évidemment, on a commencé un petit peu à chambrer sur le fait que le chanteur gueulait autant car il avait les boules d'avoir perdu ses clés qui étaient restées dans sa caisse. Puis, il y a eu leur accident de van où ils se firent enfoncer littéralement l'arrière du camion par un semi-remorque à côté de Dallas, échappant de peu à la mort, mais leur matos fut complètement engloutis. Donc Terror et nous, on leur prêta du matériel pour qu'ils puissent jouer. Ils ont joué le soir même de l'accident, un peu traumatisés certes, mais ils ont joué, pour les raisons qu'on a expliquées dans les premières émissions et cette fameuse résilience des groupes américains. Le lendemain, ils arrivèrent dans une voiture qu'on leur avait prêtée, avec les fenêtres avec du ruban adhésif dessus. Et Mathieu ne put s'empêcher de leur faire une bonne vanne avec le fameux et célèbre désormais « Nice car guys », c'est-à-dire « Très jolie voiture les gars ». Bon, eux, ça les a pas fait rire du tout, mais les Terror et les Sous-Saïol Tenensis et leurs techniciens éclatèrent de rire. Du coup, le lendemain, on a décidé d'être un peu plus pédagogue, plus compréhensif. Et quand ils arrivèrent dans la loge avec un paquet de bière, Mathieu leur dit « Thank you very much, guys, for the beer. » « Merci les gars pour la bière. » Et le chanteur répondit sans rire et au premier degré « Guys, this is our beers. » Les gars, c'est nos bières. Bon, décidément, on avait beau faire plein d'efforts avec eux, la communication ne passerait pas. Après avoir enquêté, on pensait qu'on parlait gascon et qu'on faillit parler occitan. Un truc comme ça. On finit par cette tournée qui marqua notre retour aux USA et dont on voit beaucoup d'images dans le documentaire de Yann Sourig qui était avec nous dans le camion par une date à Hollywood, dans Los Angeles, devant 3000 personnes et un concert de Sous-Saïol Tenensis comme on en a peu vu. C'était épique, jamais vu une salle entière autant slammée, très content d'avoir pu voir ou assister à ce genre de concert qu'on aura du mal à revivre au moins avant un moment, en tout cas pas cet été, avec les fameux tests biométriques dans l'œil et les futurs passeports sanitaires. Si Trash Talk a toujours eu des problèmes avec ses clés qu'ils laissaient régulièrement dans leur voiture, les rendant furax, un groupe, lui, a carrément perdu le trousseau de clés dans son tourbus et il s'appelle Slipknot. Comme quoi, il faut toujours avoir un bon serrurier. Tant qu'on est aux États-Unis, on va écouter un album énorme qui vient juste de sortir, le dernier album de blues des Black Keys, qui sont revenus aux fondamentaux et qui ont été joués au fin fond du Mississippi, dans un bar à moitié câblé, avec l'ancien guitariste de Aaron Burnside et son bassiste, un joueur de congas dont on ne se rappelle pas le nom et qui jouait juste derrière le batteur parce qu'il n'y avait plus assez de micro. Ils ont remixé ça évidemment à Nashville pour que c'est un peu de son. C'est fantastique, c'est une relecture des tubes de Aaron Burnside et un peu de tous les titres du label Fat Possum où ils ont démarré au tout début. Ce morceau est une reprise de Aaron Burnside Going Down South. We'll be right back. quel son de guitare. Et on ne parle pas du guitariste des Black Keys, même si évidemment il joue hyper bien, il a un super son, mais on parle de ce guitariste quasi inconnu. Il s'appelle Kenny Brown, guitariste de slide guitar. On l'a bien entendu d'ailleurs sur cet extrait. Quel son ! On entend bien que c'est quelque chose de traditionnel, d'ancré, d'idiomatique, un petit peu comme un joueur de flamenco qui joue comme ça. Ben lui, c'est guitare slide du Mississippi, du Delta Blues, il a fait ça toute sa vie. Allez voir la vidéo de l'enregistrement dans un petit bar, vous allez voir ce monsieur avec un chapeau qui se pose, qui se câble sur un ampli, il joue. Et là, pas besoin de gros amplis, de pédales, non, là, c'est le son d'une vie, c'est le fameux tone dont on a parlé dans les autres émissions, que les Américains souvent recherchent toute une vie. En avril 2014, avant de planter les patates dans le champ, Alain Laborde, le voisin, The Outstanding Man, nous dit qu'on pouvait partir peinard en Colombie pour notre premier concert en Amérique du Sud. Alain allait labourer le champ entièrement, où désormais on a notre maraîcher qui fait à peu près 0,7 hectares, donc il y a du taf, et mettre du fumier de vache, car pour démarrer, et avant de parler de compost ou autre, le fumier de cheval ou de vache, c'est ce qu'on vous conseille. Après, les nouvelles techniques comme l'agroécologie, soit en non-labour, paillage, engrais vert ou la permaculture, ces techniques-là peuvent prendre le relais, mais au début, c'est très important, surtout dans des terres argileuses, un petit peu comme ici, de mettre du fumier. Le labour, le semi-direct, le paillage, les engrais verts, tout cela sont en fait des techniques toutes très intéressantes qu'il faut absolument pas opposer, qui sont complémentaires, qui sont à utiliser au bon moment. Et franchement, écoutez les vieux, c'est quand même le mieux. Quand les vieux vous disent
« Ah mais non, là il faut pas labourer, vous faites comme vous voulez, mais moi j'aurais pas fait comme ça. »
C'est qu'il faut labourer et mettre du fumier. On partit donc pour Cali, où on était invité par l'université pour leur concert annuel qui s'appelle l'Unirock Festival. Comment étions-nous arrivés là ? On était invité par Javier, professeur d'économie dans la fac, grâce au contact du groupe chilien Kekoyoma, des amis qu'on avait rencontrés en République tchèque au festival Rock for People. On y reviendra car on l'a fait 5 fois celui-là. On avait sympathisé avec ces Chiliens et du coup, ils nous ont dit d'aller jouer là-bas et Rabier était très intéressé par notre histoire et notre musique et du coup, il nous invita. Rabier est un professeur de structuration en économie circulaire. Donc au-delà de la musique qu'il aimait beaucoup, il voulait absolument nous inviter. Nous partîmes donc avec Laos au son et Yann Sourig à la caméra pour le docu Rock Farmer pour un grand moment. Rabier, que vous pouvez voir dans le documentaire d'ailleurs, est un professeur qu'on aurait aimé avoir. C'est lui qui a mis en place par exemple le potager de la fac, évidemment avec des vraies graines, hein, puisqu'en Colombie on est quand même dans l'épicentre des graines mondiales. Les vraies, pas celles des semenciers. Donc à la fac de Cali, vous pouvez manger un repas pas cher, fait exclusivement avec des légumes de la fac. Alors le concert était énorme, devant plus de 10 000 personnes sur la fac. Devant nous, devant la scène, un poteau avec écrit FARC. FARC, F-A-R-C, le groupe communiste révolutionnaire. Car à cette époque, le conflit était juste en voie de se finir, mais la tension était encore palpable, et il y avait encore des zones de non-droit. Rien à voir avec l'ambiance de quand on y est revenu il y a peu, il y a 2 ans, au Rock al Parque à Bogota ou au festival Altavoz à Medellín. Là, à Cali, en 2014, c'était encore très tendu. Et Javier ne nous quittait pas d'une semelle. Il voulait nous montrer une cascade dans la montagne, car Cali est entouré de montagnes, et c'est juste superbe. La Colombie est un pays d'une beauté à couper le souffle entre mer et montagne. Cali et Medellín particulièrement et leurs régions sont superbes. Nous partîmes donc en voiture et on fut arrêtés par des militaires sur le bord de la route et Javier eut peur car il ne savait pas si c'était des militaires car pendant ces années-là il y avait des types en treillis qui circulaient avec des mitrailleuses et qui faisaient la loi mais ça pouvait être des militaires ou des milices ou des anti-FARC ou des FARC, enfin bref, ça pouvait être n'importe qui. Toute la population de l'époque a dû vivre un véritable enfer de ne pas savoir qui était qui. Là, on fut contrôlés par de vrais militaires colombiens mais tous en fusil mitrailleur sur le bord de la route de campagne, ce qui vous donne un petit peu l'idée de la tension encore à l'époque dans le pays. La cascade était superbe, ça valait un petit peu de frayeur, on la voit d'ailleurs dans le documentaire Rock Farmer. C'est le seul concert de notre vie où au bout de 20 minutes, on se parla rapidement sur scène et on décida de ralentir la pression qu'on mettait car on sentait que tout pouvait exploser. L'ambiance des concerts en Amérique du Sud, pour en avoir fait maintenant un petit paquet, n'a rien à voir avec celle d'ailleurs. On navigue toujours entre passion, rage et amour. Et tout peut se passer à tout moment. Là, au bout de 15 minutes, il y avait 5000 personnes qui se rentraient dedans de façon très festive. Mais on sait aussi que notre musique, quand on appuie fort, touche certains peuples et cultures sur un bouton et que ça peut dégoupiller et ça on en est très conscient. Et là en Amérique du Sud, notre grinta, ben, c'est aussi la leur. Donc ça leur parle très fort et nos engagements locaux de terre leur parlent encore plus. Il n'y a absolument pas d'explication à donner en Amérique du Sud sur les engagements de terre. D'ailleurs, quand on sortit l'album With the People of the Soil, nous les gens de la terre, quelques années plus tard, on nous dit quand on joua au Chili que les Mapuche, c'est-à-dire les natifs chiliens, cela signifie les gens de la terre. La divinité, la Pachamama ou encore la Tierra Madre sont tous des notions sud-américaines, des idéaux ancrés et très forts, y compris chez les citadins. C'est un peuple l'Amérique du Sud, car on peut parler quasi d'un peuple entier, entièrement connecté à la terre et aux éléments. Et donc un concert comme le nôtre là-bas, c'est plus qu'une expérience, ça nous tarde d'ailleurs d'y revenir. Un groupe pour symboliser cette folie et dans les textes et la rage, le Rage Against the Machine mexicain Molotov. Déjà, rien que le titre, vous avez compris. On a joué une fois avec eux au Mexique. Ils sont complètement fous. C'est des concerts de fous. Et leur public sont complètement branques. Ce sont des concerts, d'ailleurs, qui aujourd'hui sont impossibles ici. La grinta, la garra, comme disent aussi les Uruguayens, ça mord au mollet. C'est l'Amérique du Sud. Compliqué en foot pour tous les grands aficionados de football. Tout le monde sait très bien que c'est très difficile de rencontrer l'Uruguay. C'est tout petit. Mais par contre, on sait toujours qu'on va prendre des coups, qu'on va en avoir plein les mollets et que ça joue avec le cœur. Et même s'ils sont très très peu de licenciés en Uruguay, ils seront forcément en quart de finale de la Coupe du Monde et ils vont nous mettre des brins. C'est l'Amérique du Sud et on adore. On y reviendra dans une émission future entièrement dédiée à nos aventures d'Amérique du Sud. Molotov. We'll be right back. Imaginez le bordel que ça met en concert ce genre de groupe Molotov. Donc si on avait été en Colombie, c'est grâce à un groupe chilien appelé Kekoyoma qu'on avait rencontré au Rock for People, le plus gros festival de rock de République Tchèque. On l'a fait 5 fois. Dès le premier album, le programmateur Mitchell nous a contacté car il était fan, il l'est toujours. Il nous a même une fois laissé sa maison de campagne dans un village de 7 habitants pour rester une semaine. C'était une ferme en fait, on s'est bien pelé d'ailleurs. Sachez que c'est dans cette vieille ferme en Tchéquie qu'est né le morceau Fisherman. Et aussi le morceau Romana, un morceau dédié à la femme de Mitchell, car, comment vous dire, Romana eh bien, était très jolie, donc il fallait faire une chanson. Une fois donc, il nous a invités pour jouer avec Motorhead. C'était lors de la dernière tournée de Lemmy, et il allait malheureusement décéder quelques mois après. On était 5 groupes, on jouait en 2, avec un bon horaire. Là, au moment de jouer Fuck the Best Player, et avec le staff de Motorhead sur le plateau, de bons anglais, bon teint, on dédicaça donc le morceau Fuck the Best Player à Lemmy. Évidemment, ce genre d'humour plaît aux Anglais et donc déjà tout le staff nous applaudit en sortant de scène. Mais surtout, leur tour manager vient nous demander si on voulait venir saluer Lemmy. Évidemment, on se fit pas prier et donc là, on fila au camion chercher un foie gras et une bouteille d'Armagnac. On rencontra donc Lemmy, qui fut très sympa, un vrai gentleman, et nous dit « Nice show, guys ». Il avait vu notre set dans la loge, car il y a souvent des télés qui retransmettent les concerts dans ce genre de festival, dans chaque loge artiste. On lui offrit donc le foie gras, là il dit « Ouh ». Et l'Armagnac, là il dit « Waouh ». Et un t-shirt « Fuck the best player », donc là ça le fit hurler de rire. Évidemment, si on l'avait pas fait là, on l'aurait regretté toute notre vie. On fit une photo, et Phil Campbell et Mikey D, gratteux et batteur de Motorhead, nous saluèrent. On leur donna un t-shirt « Fuck the best player », et ils en étaient très contents d'ailleurs. Là, Lemmy était très affaibli, malade. Il fit ce qu'il put pour honorer le concert en s'accrochant. Ce fut d'ailleurs un grand moment quelque part, une leçon. Le public était conscient que c'était la dernière fois qu'il le voyait et c'était un peu comme un boxeur qui va perdre mais qui se relève inlassablement jusqu'à la mort. Ça nous a bien marqué. On va donc passer en son honneur et à l'honneur de cette belle rencontre, une reprise de L'As de pique, mais en québécois, par nos vieux amis d'Arsenic 33, qu'on embrasse d'ailleurs.
Yeah!
L'été 2014 fut un été un peu fou, où on alternait le boulot à la ferme pour quelques jours, complètement jet-lag, fatigué, et on repartait en serrant les dents. On dormait quand on pouvait, sur les bancs des aéroports, pendant 5 heures, ou dans les navettes, ou dans les loges. Tout était bon à prendre. On a toujours eu cette immense chance, tous les deux, de pouvoir dormir n'importe où, n'importe quand, et dans n'importe quelle position. Quand on est fatigué et qu'on peut dormir partout, c'est vraiment un truc en plus. C'est un truc qui doit vous paraître anodin, mais en tournée, quand vous cumulez la fatigue, les décalages horaires, les changements de régime alimentaire, hein, Yann Sorig, qui sont souvent la chose la plus fatigante, eh bien, il arrive un moment où vous êtes un véritable zombie et il faut assurer le soir. L'adrénaline naturelle d'avant-concert est une puissante drogue, mais il faut se reposer et dormir, déjà pour chanter correctement. Beaucoup de nos collègues utilisent, disons-le, la boîte à pharmacie. Là-dessus, il faut être très clair. Surtout quand tu as du mal à dormir, au moment où il faut dormir, on juge pas, c'est pas un souci, car c'est très dur. Pour nous, c'est vrai qu'on a cette chance de pouvoir dormir, donc c'est plutôt cool, et on n'a pas besoin d'avoir la boîte à pharmacie. On passe beaucoup de temps à s'étirer, boire beaucoup d'eau, et dormir en tournée. En fait, c'est juste pour la récup, car des fois, ça enchaîne sec. Donc fin juillet 2014, un exemple de cet enchaînement sec, on allait encore se mettre dans le rouge avec une tournée asiatique Japon, où on revenait au Fuji Rock, où on était très attendu depuis 2009, et le Pentaporte aussi, retour en Corée du Sud, avec entre-temps une petite escale à Taïwan pour jouer dans un petit festival et passer quelques jours à Kenting, au sud de l'île, avec notre ami Chris Lin, notre dessinateur qu'on a rencontré, vous vous en souvenez sûrement, là-bas. En arrivant donc à Tokyo, bien défoncé par le voyage et déjà par toutes les dates de l'été qui avaient été bien remplies, là on fit une grosse connerie. Un caméraman avec une tête d'étudiant arriva et nous posa des questions comme cela en sortant juste de l'aéroport. On sait pas trop comment vous êtes, vous, le matin, niveau humeur, mais nous, c'est plutôt « faut pas faire chier ». Donc en gros, on l'a éconduit gentiment, poliment, hein, mais bon, on l'a éconduit. Là, on a reçu un appel direct de Taichi, notre label au Japon. Vous savez, celui chez qui on va à Ise dans la maison, qui était Furax. Il nous hurla dessus, ce qui est plutôt pas dans les habitudes des Japonais. Donc, en plus du jet lag, de la fatigue, ça commençait à faire vraiment beaucoup. En fait, le gars qu'on avait envoyé chier, c'était le Yann Barthès japonais, qui était en gros la star d'une émission appelée « Why did you come to Japan ?», qui était l'équivalent, en gros, ben, de quotidien, en gros, là-bas. Donc, autant ce genre de choses pour nous passe à des milliers de kilomètres, autant quand vous avez un petit label comme on avait au Japon, ben, il faut aussi leur faire plaisir. C'est pas le cas pour le reste de notre carrière, puisque sur le reste, c'est nous le label, mais au Japon, à l'époque, ben, c'était eux. Donc, en gros, Taichi faisait des pieds et des mains pour ne pas laisser passer une occasion en or. Vous remarquerez d'ailleurs que Taichi est coutumier et a plutôt l'habitude de rattraper les pots cassés et toutes les cacahuètes qu'on faisait, puisque c'était lui qui faisait des courbettes pendant des heures après qu'on ait débordé pendant le show à 802 FM à Osaka en juillet d'avant. Donc en gros, le gars était super intrigué que des mecs l'envoient chier, vu son importance. Du coup, on dit à Taichi qu'on l'avait pris pour un étudiant faisant un radio-trottoir, ce qui était à peu près cela. Bref, Taichi négocia que le gars vienne au Fuji, et on passa dans cette émission, qui était plutôt bon enfant, et en fait assez différente de quotidien dans son concept. On voit tout cela dans la vidéo de Yann Sorig. Là, au Fuji, on va passer un artiste qu'on a vu et qui nous a émerveillé, Damon Albarn. Il en était sur son album solo qui s'appelait Everyday Robots. Un album avec des espèces de boucles acoustiques, samplées, mais tous avec des vrais sons naturels et évidemment sa voix si particulière. Damon Albarn.
Pass by, just left on repeat. Tell the trains rerun and the rush hour has come and the mid-frequency sun have sent you to sleep. It'll be a silent day. I share. Fighting off the hostiles with whom we collude. Hoping to find the key to this play of communications between you and me.
Le concert au Red Marquis, salle de 8000 places, était à 9h du matin le lendemain et Naeba, là où se déroule le Fuji, est à 5h de route de Tokyo. Donc on partit se préparer. Donc on allait au lit très tôt pour récupérer notre tour de sommeil. On était assez inquiet de savoir si le public, qui nous avait fait triompher du Fuji en 2009, serait là en 2014 à 9h du matin. Eh bien à 9h moins 5, il n'y avait personne dans la tente. Sauf qu'à 9h, quand on monta sur scène, il y avait 8000 de fans agglutinés, prêts à en découdre, qui sortaient tous du camping. On voit d'ailleurs les images sur la vidéo de Yann Souri. Le concert fut énorme, avec beaucoup d'émotions, très touchant, car c'était notre retour, et c'était un beau retour. Là, le soir, on allait jouer à 20h sur une scène où on avait démarré en 2009. Naeba Shokudo, une scène minuscule, en fait c'est un resto. Les gros groupes en gros n'y jouent plus, mais on avait demandé à y jouer et le festival allait annoncer à la dernière minute en disant qu'on offrirait l'Armagnac au public. Car Colette nous avait filé des litrons de blanche d'Armagnac qu'on avait soigneusement mis dans des bouteilles d'Evian pour passer la douane. On reviendra sur notre aptitude, voire notre amour, de contourner les règles des aéroports avec plein d'astuces qu'on pourra vous partager désormais. Donc à 20h, ils étaient là, au taquet, et ont commencé la distribution de blanches. Comment vous dire ? Eh bien, regardez la vidéo de Yann Sorig, ce fut branque, les Japonais étaient fous, et nous aussi. Donc c'était le deuxième concert, après celui du matin, joué à 9h, après être arrivé la veille. Et là, à 23h, on avait la navette pour repartir dans la nuit à Tokyo, donc à 5h de route de là, pour prendre un avion à 9h du matin, pour aller à Taipei, à Taïwan, où on allait jouer là, à 120 km, sur un festival, le lendemain soir. Là, on est exactement dans ce qu'on vous parlait tout à l'heure. Le rythme et la récup sont hyper importants. Donc en gros, on arriva une heure avant de jouer le lendemain à Taïwan et on avait fait qu'enchaîner depuis l'aéroport de Tokyo et l'arrivée avec l'étudiant qu'on prenait pour Yann Barthès local. On n'en pouvait plus, mais on était content car c'était le feu. On resta quelques jours à Genting après le concert. Matt fit du surf et on fit tous un petit peu de scooter dans le parc national. On ronfla très fort apparemment, puis on repartit en Corée du Sud pour le Pentaport Festival. Pareil, où là, on était attendu depuis 2009. On avait deux jours de repos et donc pour nous, vu le rythme, c'était une blague. Mike Muir et Suicidal Tendencies jouaient la veille au Pentaport Festival en Corée du Sud. Donc on alla les voir, tout était top. Donc là, Mike nous annonça qu'il voulait rester pour regarder notre concert et ne pas repartir avec le reste du groupe. Donc, pour nous voir le lendemain, il a fallu qu'on l'inscrive dans notre liste de techniciens. Donc en gros, Mike dit « Ok, je vais faire backline batterie », c'est-à-dire qu'il s'occuperait de la batterie de Mathieu. Et c'est ce qu'il fit, donc c'était du grand n'importe quoi. On voit d'ailleurs dans la vidéo de Yann Sourig sur le concert, Mike qui est sur le bord de la scène. Mais avant, bon, ça, Yann l'a pas filmé, mais Mike Muir installa la batterie de Mathieu. Le concert fut un concert de fou. Ils étaient tous là et c'était très touchant pour nous de voir que depuis 2009, tout le public asiatique était revenu nous voir, mais en masse. On pouvait rentrer, on n'en pouvait plus. Une semaine après, c'était un trip de fou, Espagne, Afrique du Sud, Luxeuil, dans un week-end. Donc là, fallait se reposer.
last night, too tired to wait. I had a chill this morning, too tired to shake. I got a good poker hand, too tired to win. I can hear my baby knocking, too tired to let her in. I'm tired. Yeah, 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 I'm tired. Too tired. Too tired for anything. Too tired to walk, too tired to run. I can hear my baby call, I'm too tired, too tired, too tired. Yes, I'm tired. I'm tired. Too tired for anything. Tired of luck, sitting on a pin. I'm too tired to get up. I'm tired. I declare, I'm tired. Too tired, tired, too tired for anything.
Albert Collins avec son fameux « Too Tired ». Comme nous, on était hyper fatigués. Alors Albert Collins fait partie des piliers du Chicago Blues, c'est un guitariste qu'on adore. Albert Collins fait partie en fait de ces guitaristes un peu mulots, un peu bruts qu'on adore, qui jouait avec les doigts et qui tirait de son son de sa Telecaster avec un accordage un peu improbable et un capodastre, un son très piquant, très perçant, d'où ce surnom de « Ice Picking ». C'était une bête de scène en plus, on en reparlera quand on fera une émission sur le blues. Comme vous le savez peut-être, l'album Rock Farmer fut le moment où on commença à en travailler avec le barbu, c'est-à-dire Vince Powell. On avait enregistré l'album avec Laos, notre sonorisateur, ici au studio, sur notre vieille console, et on avait la matière pour deux albums. D'ailleurs, on sortit un double, car on a toujours aimé les suicides commerciaux. Et Vince allait le mixer. On vous a déjà raconté notre rencontre avec Vince, par l'intermédiaire de Bill Elder des Dynamites et de C6 Steve. C'est chez Bill, donc, des Dynamites qu'on loge là-bas. Pareil, on vous l'a expliqué. En gros, Vince nous a dit qu'il adorait les chansons et le style unique, c'est-à-dire unique, du groupe. Et comme ça faisait un moment qu'ils nous reluquaient, via C6 Steve, eh bien, c'était le bon moment. La seule contrainte, c'était vraiment le temps. En gros, il nous a dit, les gars, je vais devoir vous caler en une semaine, mais ce sera entre des groupes. Effectivement, c'était une période où il devait faire Dead Weather, un des projets de Jack White, qui est top, d'ailleurs avec la chanteuse de The Kills, au chant, et Jack White à la batterie. Sauf que Jack White, qui est un peu style à l'arrache, donc en gros, fallait attendre que Jack White se décide, et un type qui s'appelait Stapleton, qui venait juste de finir. Bref, on rêvait. On se retrouvait en fait avec la crème mondiale, à passer entre les mailles en autoproduction, et on était là juste pour l'artistique. Parfait. Donc en gros, on reçut un appel rapido de son manager qui nous dit que c'était pendant la semaine de la fête de la Madeleine. Donc on allait rater la fête de la Madeleine pour les mixer à Nashville avec Powell, y'a pire. Là-bas, en gros, Vince était en train de prendre ses distances avec Jack White après tous les projets, raconteurs, etc. pour des raisons internes qu'on ne peut raconter et pour Jack White et pour Vince. Du coup, ben, on le fit rapido et on hallucina sur le traitement du son. Il y avait évidemment une façon très différente de traiter le son entre les US et l'Europe, mais là on en fut vraiment frappé. C'était juste parfait et c'est exactement le son comme on l'aime. Allez, on vous passe un petit Dynamite Charles Walker pour notre ami Bill et aussi parce que c'est hyper bien.
I know you got to a man.
La sortie de Rock Farmer se passa très bien. On fit 35 dates en France sur 2 mois, ce qu'on faisait rarement à l'époque. Une petite tournée au Japon en tête d'affiche en mai, et les télés commençaient à nous appeler, M6, etc. On sentait qu'il y avait quelque chose de différent désormais en France. Sûrement cette dualité rocker-fermier. Il aura donc fallu attendre 5 albums, quand même, ici, et arriver malgré tout sous un angle qui dépasse la musique, là où dans d'autres pays, seule la musique suffit, c'est comme cela. Par contre, en Zik, les ricains, ben, c'est leur culture. On avait fait notre deuil de quelqu'un qui pourrait en France parler bien, avec les fondamentaux, dans ce style, et sans en faire un sketch, comme c'est aujourd'hui, souvent, sur n'importe quel artiste qui sort. Là, un gars nous contacta, il s'appelle Jean-Daniel Beauvallet, c'était le rédacteur en chef, bref, c'était le boss des Inrocuptibles. On connaissait pas très bien les Inroc, en fait, et pour nous, ça avait un peu cette image que ça, d'élitisme urbain un peu snob. Sauf qu'en fait, Jean-Daniel était tout l'inverse, et est tout l'inverse. Dès le premier échange, on comprit qu'il savait de quoi il parlait, en termes de blues et de rock, et surtout, il était très gentil, très poli, très bienveillant. Jean-Daniel fait partie de ces gens très discrets, très humbles, qui s'y connaissent énormément en musique. D'ailleurs, il habitait à Londres, il y habite toujours, pour sortir du contexte d'entre-soi culturel parisien, pour avoir beaucoup plus de recul. Là, pas mal de gens comme Kem, promoteur des Eurocaines, grand supporter du groupe également, ou le regretté et ami Patrice Budzinski, nous dire de pour une fois jouer le jeu des médias, car lui, c'était différent, car lui, c'était une plume. Notre cher Sissi Kessai, notre historique attaché de presse en France, on en reparlera de Sissi car on pourrait faire toute une émission sur elle, nous dit qu'on pouvait pas refuser. Donc on a invité Jean-Daniel ici, à la ferme Lucas, pour voir si lui descendrait jusqu'ici, et c'était une façon un peu de tester sa motivation. Eh bien, il vint ici et resta 2 jours, qui resteront parmi les plus inoubliables, avec un journaliste, un vrai, un homme surtout, une personne merveilleuse qu'on a adoré. Lui, fan de pop anglaise Amesh, pouvait-il tomber amoureux d'un groupe landais de blues rock américain avec des crottes sous les bottes, Amesh aussi, mais réparti que chez un seul des deux et encore de mauvaise façon. On partagea pas mal de choses ici, dont une répétition en haut. Il écrivit 5 pages dans les Inrock sur nous. Et si jusque-là on avait pas mal de supporters depuis le début, là ça allait nous faire passer dans une autre dimension en France. France Inter allait appeler de suite, après l'article, et plein d'autres médias. Tout ça grâce à un article de un journaliste. Mais quel article ? Vous pouvez le lire d'ailleurs sur notre site ou en ligne, il est toujours là. Jamais personne n'a écrit des choses comme cela sur nous et surtout avec ces mots. Alors depuis, on a compris, on l'a verrouillé le JD, et c'est lui qui fait toutes nos bios de chaque album. On l'embrasse, on sait qu'il écoute les radios shows, et on embrasse aussi Sarah, sa femme anglaise, Jean-Daniel Beauvallet, une rare et belle rencontre dans la musique. Du coup, on allait se retrouver aux Eurocaennes pour un retour après 2008 sur la scène de la plage, rebaptisée scène Inrock, pour un concert un peu quitte ou double pour nous en France. On joua d'abord dans la prison, devant les détenus de Belfort, un grand moment fort comme on aime. Ensuite, on alla jouer au camping pour réveiller les festivaliers, filmé par les amis de Sourdes Oreilles. Et ensuite, le gros concert à deux sur une grosse scène devant 17 000 personnes. Le concert, filmé par Arte, est toujours sur le net. Et oui, on a envoyé, oui, on a rocké, et oui, ça a saigné. On a fait ce qu'on avait à faire, un concert de rock en France, car on savait très bien que c'était une occasion qui ne se reproduirait plus. Ça nous a amené dans une autre dimension, ici, et ça y est, les autres pays étaient à équilibre avec la France. Au bout du 5e album, et grâce au courage de quelques personnes, dont Jean-Daniel Beauvallet et tous les autres ici qu'on salue et qui nous suivent depuis le début. Voilà, c'est la fin de ce Rock Farmer 7, intitulé tout simplement Rock Farmer, et on va vous passer, pour finir, un Dead Weather. Adi Schatz, et au mois prochain. Cold. Crack a
show. It's just right here and now, Radio MDM. You're listening to the Rock Farmer Radio Show. It's just right here and now, Radio Perfect.